Alors c'est maintenant qu'on va revenir sur le terme de Pâques qui apparaît ici au verset 8 pour les préparatifs en vue de la Pâques. Donc Pâques, la Pâques, c'est la fête de Pessah pour les Juifs et Pessah, ça signifie le passage. C'est donc une fête que l'on appelle une fête de pèlerinage, il y en a trois, avec Soukhot, la fête des tentes, et Shavuot, la Pentecôte. Et donc, comme c'est une fête de pèlerinage, tous les Juifs sont invités à se rendre à Jérusalem. Et cette fête de Pessah qu'on appelle le passage, elle commémore le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Et c'est une fête qui dure 7 jours, une semaine entière. Alors, il y a des préparatifs pendant ces 7 jours, mais ce sont 7 jours pendant lesquels on se prépare ou on célèbre Pessah. Et avant de commencer, il faut faire un grand ménage. Ménage de printemps, on pourrait dire, parce que ça tombe à peu près à la bonne date. Et qu'est-ce qu'on fait comme ménage? On enlève tout ce qui comporte du levain. Donc il ne faut plus aucune trace de levain dans la maison. Donc ça existe aujourd'hui encore. Hein. Et même aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait des boulangeries, mais les dépôts de pain en Israël, pendant le temps de la fête de Pâques, il y a plus de pain avec du levain. C'est vraiment un pain plus dur qui est présent. Et puis, il y a aussi un repas familial qu'on appelle le Seder, qui va ouvrir le temps de la Pâque. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on en trouve des éléments dans le récit de la scène qui nous est rapporté par Luc. Alors, Luc ne redonne pas tous les éléments du Seder, mais on va en retrouver certains. Le premier qu'on retrouve, c'est celui qu'on appelle Kadesh. Kadesh, c'est la bénédiction d'une coupe pour lancer le repas. Et ça explique pourquoi est-ce que chez Luc, il y a deux coupes de vin. Vous avez vu qu'il y a une première coupe de vin, et à la première coupe de vin, Jésus, il ne dit pas ceci est mon sang. Il dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Eh bien, c'est Kadesh. On commence, on inaugure le repas par la bénédiction d'une coupe de vin, on la partage pour la boire ensemble. Ensuite, il y a un autre rite qui s'appelle le motzi matza. Et le motzi matza, c'est quand le chef de famille va bénir le pain, le rompre en deux, en souvenir de la mer Rouge, qui a été ouverte en deux par le Seigneur, et ensuite il va le donner aux autres en leur demandant de le manger. Et donc ça nous intéresse particulièrement parce qu'au verset 19, c'est exactement ce que Jésus fait. Puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Et puis, enfin, le dernier rite du Seder qui est présent chez Luc, c'est le rite de Barek. C'est la bénédiction et le partage d'une coupe de vin, mais cette fois-ci pas au début du repas. Et donc là, c'est le verset 20. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même. Alors là, alors le premier, c'est Kadek, donc ou Kadech. Où ça se dirait Kader? Motsi Matsa, c'est comme ça se prononce, c'est des TS, les TS. Et le dernier, c'est Barek, Bareck. Alors revenons quand même aux préparatifs. Les préparatifs ont commencé, on l'a dit dans les 6 premiers versets, c'est les préparatifs de la trahison de Jésus. Mais maintenant, ils sont terminés. Donc le récit se poursuit avec les préparatifs de la dernière Pâque de Jésus. Et Luc va donc construire son récit suivant une logique d'affrontement entre deux parties. Ce qu'on avait déjà souligné avec le terme Satan qui signifie l'ennemi. Et à ce moment-là, Jésus semble être plus omniscient que jamais. Il est capable de préparer son dernier repas à distance, c'est les versets 10 à 12. Il est capable d'annoncer la trahison à venir, c'est le verset 21. Il est capable d'annoncer le reniement, c'est le verset 34. Et il annonce aussi au verset 15 et 16 sa mort prochaine. Donc là où depuis le début, il y a une quête de compréhension de l'identité de Jésus et une quête qui va devenir croissante au moment du jugement du Christ dans une tension jusqu'à la crucifixion, là il y a déjà un élément de réponse, cette omniscience. Donc Pierre et Jean, que Jésus va envoyer, vont trouver tout comme Jésus le leur a annoncé. Donc Jésus domine la situation. Jésus s'érige comme le maître des événements. Et en même temps, en étant le maître des événements, il n'en demeure pas moins un serviteur, et c'est le serviteur du culte qui est rendu à Pâques. Et ça, c'est important de le souligner parce que tous les préparatifs que fait Jésus sont en vue de célébrer la Pâque. Là où les préparatifs qui sont faits contre Jésus ne sont pas liés directement à la Pâque. Or, ils sont faits donc pour trouver la mort pour provoquer la mort de Jésus. Or, ils sont faits par qui? Ils sont faits par les grands prêtres qui sont eux-mêmes censés normalement assurer la préparation de la Pâque. Donc, il y a une espèce de renversement parce que ceux qui pensent être les nouveaux maîtres de la situation, c'est les grands prêtres. Et en fait, la situation va complètement leur échapper, là où Jésus est le véritable maître des événements. Et puis, pour Jésus, bien sûr, préparer sa dernière Pâque, bah, c'est aussi préparer la nouvelle Pâque, la Pâque chrétienne, donc les Pâques que nous célébrons. Parce que le rite pascal, qui devient le rite de l'Eucharistie chez nous, est directement inspiré de ce dernier repas. Et justement, ce dernier repas qui arrive après les préparatifs, c'est celui qu'on appelle traditionnellement le repas de la Cène. Donc qui réunit Jésus et les disciples qui sont présents. Et on voit que, avec la lecture qu'on a faite du rituel du Seder, Jésus agit en père de famille. Parce que c'est lui qui bénit les coupes et c'est lui qui bénit et partage le pain. Et c'est là qu'intervient la grande nouveauté. En fait, Jésus fait tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sauf à un moment. Tant qu'il dit, même si là c'est pas relaté par Luc, mais qu'on a gardé dans la liturgie de l'Eucharistie, tant qu'il dit prenez et mangez, bon bah là, il n'y a pas de souci, hein, il est dans le rituel du Seder. C'est l'interprétation qu'il amène après, qui n'est pas une interprétation d'ailleurs, qui est une révélation, quand il dit ceci est mon corps ou ceci est mon sang. Et quand il parle du sang de la nouvelle alliance, là, il apporte véritablement une nouveauté. Et cette nouveauté, elle ne pouvait pas être comprise sur le moment par les disciples, hein, c'est impossible. Parce que c'est compréhensible qu'au regard de la croix, le corps livré et le sang versé ne sont compréhensibles que par la croix. Et de fait, il n'y a aujourd'hui Eucharistie que parce qu'il y a eu la croix et la résurrection après la scène. Et ce qui peut sembler surprenant, c'est donc que si les apôtres n'ont pas compris pourquoi est-ce que Jésus peut-être disait ça, il n'empêche qu'ils ont suivi fidèlement, quoi. Prenez, mangez-en tout ceci et mon corps livré pour vous. Ils prennent et ils mangent. Et à ce moment-là, Jésus va annoncer que le pire va arriver. Une trahison par l'un de ceux qui partagent la table avec lui. Et il se passe exactement la même chose qu'au chapitre 9, verset 46. La controverse va rapidement passer chez les disciples, non plus à chercher le fautif, mais à savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand. C'est surprenant quand même ce renversement. On pourrait imaginer que ils aient plein de questions à poser à Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corps et de sang? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance? Jésus, de fait, vient de leur parler d'une trahison, il pourrait le questionner sur la trahison, et en fait, très rapidement, la première chose à laquelle il pense, c'est lequel d'entre nous est le meilleur? Et cette attitude, eh bien, elle préfigure déjà l'abandon qu'ils vont faire de Jésus au Mont des Oliviers lors de son arrestation. Ils ont beau être au plus près de lui, ils ont beau avoir participé à la dernière Pâque, à la scène, ils ont beau avoir été présents quand Jésus institue ce qui va être le reste de leur vie, eh bien, à ce moment-là, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas conscients. Et toute la péricope qu'on a lue, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu la couper, même si ça fait un peu long, des versets là, 7 à 8, elle prend la tournure d'un discours testamentaire. Parce que Jésus annonce sa propre mort, donc c'est comme si... Il avait non pas rédigé son testament, mais il le donne à haute voix. Il donne ses dernières consignes. Et donc, il laisse en héritage aux apôtres un culte qui est un culte à célébrer et un culte à transmettre. C'est notamment hein, au verset 19, faites cela en mémoire de moi. Et effectivement, aujourd'hui encore, on célèbre l'Eucharistie. Et Jésus invite aussi à une compréhension, comment dire, surnaturelle du monde. les trahisons et les reniements ne vont pas empêcher le royaume de Dieu d'advenir. Donc même s'il annonce la trahison de Judas, même s'il annonce le reniement de Pierre, lui, il annonce aussi qu'il faut que ça s'accomplisse pour que le royaume de Dieu advienne. Et Jésus va profiter de ce discours aussi pour rappeler la juste attitude du disciple avec une logique de remboursement qu'on a l'habitude d'entendre. Le plus grand est celui qui se fait le plus petit. Le maître est celui qui se fait le serviteur. Et on peut, dans une lecture moins exégétique, mais on va dire de théologie biblique, retrouver aussi dans ces trois choses les vertus théologales. Jésus invite à quoi ? Au culte, c'est la foi, invite à trouver une raison, ou du moins une compréhension surnaturelle à la trahison, au reniement, c'est l'espérance, parce que quoi qu'il arrive, le règne de Dieu adviendra. Et puis, il invite à se faire le plus petit, le serviteur, c'est-à-dire la charité. Et puis, il y a les derniers versets, les versets 35 à 38, qui, eux, sont quand même assez surprenants, parce que Jésus semble contredire tout ce qu'il a enseigné auparavant. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué quelque chose ? Ils répondirent non de rien, et Jésus dit, eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. Ok, très bien. Et puis, il les invite aussi à prendre des épées. Donc tout ça, ça nous paraît un petit peu surprenant. Mais il faut les comprendre avec la citation qu'il fait du livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 12. Il a été compté avec les impies. Il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, dit Jésus au verset 37. Il a été compté avec les impies. Et effectivement, Jésus va s'identifier dans le serviteur souffrant d'Isaïe. Et donc là, c'est le temps du samedi saint qui est annoncé. C'est le temps où la mort semblera avoir gagné, le temps où les apôtres vont être réduits à leur propre force, parce que Jésus ne sera plus au milieu d'eux. Et donc, la question c'est, est-ce qu'ils vont devoir répondre à la violence par la violence ? Puisque Jésus leur dit qu'il faut qu'ils prennent des épées. Alors même que Jésus a dit, au chapitre 6, c'était les versets 27 et 29, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. » Donc est-ce que Jésus leur demande de ne finalement plus écouter ses enseignements et de vivre par les armes ? Eh bien, non. Mais ce qui nous permet de le comprendre, c'est la réponse que Jésus fait au verset 38. « Seigneur, voici deux épées. » Il leur répondit « Cela suffit. » Et donc, il faut entendre le « cela suffit », non pas comme « nous avons suffisamment d'armes pour nous défendre », parce que deux épées, c'est tout à fait ridicule, mais comme « n'allez pas plus loin que de présenter ces armes. » Il va falloir être combatif, parce qu'il va y avoir de l'adversité. Mais il ne faut pas pour autant sombrer dans la violence. Et s'il nous fallait une preuve que Jésus ne les incite pas à prendre les armes, c'est qu'il va interdire l'utilisation de ces armes lors de son arrestation, il va même guérir l'oreille du serviteur du grand prêtre, ce sera un peu plus loin dans le chapitre 22, lorsque celle-ci aura été coupée. Donc Jésus n'encourage pas à prendre les épées pour se battre, il l'encourage à entrer dans une dynamique qui est celle d'un combat, et qui est un combat, en l'occurrence, bien sûr à vivre sur le moment pour les apôtres, mais aussi d'une dimension spirituelle. Et dans son épître, hein, Saint-Pierre, quand il dit « Soyez sobre, soyez vigilant, votre adversaire, le démon, va et vient comme un lion qui rugit à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi. » Et donc on voit qu'il y a cette dimension du combat, mais c'est la foi que Pierre annonce comme arme.